Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes heureux de pouvoir prier Jésus, de pouvoir le louer, de pouvoir l'élever. C'est notre joie, c'est ce feu qu'il y a dans notre cœur pour Jésus. Et nous voulons l'entretenir et que ce feu toujours soit fort en nous. Voilà, je vous propose trois lectures en introduction. Le premier, c'est Acte 1, 8. Bon, on le connaît par cœur, mais Acte 1, 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. On va dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Et enfin, une dernière lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 16, à partir du verset 15. C'est encore des paroles de Jésus. Marc 16, 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnait. Amen. Nous aurons d'autres lectures au cours de la méditation, mais nous sommes déjà entretenus sur le thème tellement important, je dirais primordial, c'est même la raison d'être de l'Église en général et du chrétien en particulier. L'Église doit être dans la ville où elle est, un phare, une lumière, un repère, de même que le chrétien doit être un témoin, là où il est dans sa famille, dans son voisinage, dans le lieu de travail, il doit être un témoin de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, d'un Jésus vivant et agissant. Les premiers chrétiens témoignaient avec beaucoup de force de la résurrection de Jésus. Ça veut dire d'un Jésus vivant, d'un Jésus agissant. Jésus est vivant aujourd'hui. Il est vivant, il est ressuscité, il est au milieu de nous. Le Saint-Esprit a été répandu et il est celui qui veut véritablement agir au milieu de son peuple et à l'extérieur. C'est l'ordre du Seigneur Jésus juste avant qu'il remonte au ciel. Nous l'avons vu dans les Actes au chapitre 1er, nous l'avons lu Dans Marc au chapitre 16, juste avant de remonter au ciel, il donne des ordres et des recommandations et je crois que quelque part il a voulu souligner le plus important. Vous savez, quand un enfant part en voyage, prépare les affaires et tout, et la maman dira avant qu'il parte, attention à ça, souviens-toi de ça, le plus important, ce qu'il ne faut pas qu'il oublie. Jésus a voulu souligner que, eh bien, la mission de l'Église, la mission du peuple de Dieu, c'est de faire connaître un Jésus vivant, un Jésus agissant. Alors, rappel, celui qui ordonne, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus. Il faut s'en souvenir, c'est lui qui envoie. Et c'est beau, dans le texte où nous avons lu, dans Marc, il nous est dit qu'après être remontés au ciel, ils s'en allèrent. Ils ont obéi sur le champ. Ils sont partis. Donc celui qui ordonne, c'est Jésus. Le message, il n'est pas de nous. Le message, il nous a été transmis, cet évangile dont Paul parle tellement, l'évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas notre message, on ne se prêche pas nous-mêmes, on ne parle pas de nous, mais on parle de celui qui est mort et ressuscité, Jésus. Il ne faut jamais l'oublier. Celui de qui parle le message, je le dis, c'est Jésus. Le cœur du message, c'est l'œuvre de Dieu. À la croix, bien sûr, mais l'œuvre de Dieu en nous et au travers de nous. Notre assurance, c'est encore lui. Il dira dans Matthieu 28, « Faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Notre assurance, c'est la présence de Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien, le message ne porte pas. Sans lui, il n'y a rien. Mais quand il est là, il est notre assurance. Et puis, notre force, c'est le Saint-Esprit. Jésus l'a prévu ainsi parce que c'est indispensable. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. C'est un discours théologique. Mais quand le Saint-Esprit est là, alors c'est notre force, c'est la puissance, la dunamis, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er et verset 16, c'est une puissance, c'est une dunamis. Ce n'est pas un pétard à mèche, hein, c'est une dynamite. Amen. C'est une dynamite, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est la plus grande puissance qu'il y a sur terre, capable d'agir là où personne ne peut agir, capable de changer le cœur d'un homme. Aucun psychologue, psychiatre ne pourra changer le cœur d'un homme. Jésus, oui. Il y a une puissance extraordinaire. Alors Jésus a propulsé une église pour continuer l'œuvre qu'il a commencée, continuer d'annoncer, de prêcher, de témoigner le beau message de l'Évangile. Et ils l'ont fait. Ils n'ont pas choisi le confort. Ils n'ont pas choisi d'être des bourgeois spirituels. Mais ils ont choisi d'obéir aux paroles de Jésus. Ils sont allés. Ils ont pris au sérieux les paroles du Seigneur. Ils n'ont pas dit « le salut pour moi, c'est bien ». Non, ils ont obéi à l'ordre du Seigneur et ils sont partis. Et c'est beau parce qu'il est dit, le Seigneur travaillait avec eux. Il travaillait avec eux. Ils ont obéi, ils sont allés au front, ils sont allés dans les ténèbres, ils sont allés là où le Seigneur les envoyait. Il ne nous envoie pas dans les palais, j'allais dire, Jésus n'était pas dans un palais à Jérusalem attendant que les gens viennent. Jésus était de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voilà le ministère de Jésus, il allait là où il y avait besoin de lui. Là où les gens soupiraient, là où les gens étaient dans la détresse, Jésus y allait. Et c'est notre sauveur, mais c'est aussi notre modèle. Notre modèle. Le message s'est répandu, des églises ont été ouvertes, des régions, des pays ont été visités par le Saint-Esprit grâce à des croyants qui ont pris au sérieux les paroles de Jésus. Ils les ont prises au sérieux. Et je veux le souligner ce matin. Ils les ont pris au sérieux. N'est pas cet écrit, « Ouais, mais bon, moi le Seigneur connaît ma vie. » Non, ils ont pris au sérieux. Chrétiens, voilà l'ordre du Seigneur. C'est pas négociable. C'est pas si je peux, si j'ai envie, si je me sens, si je suis pas fatigué, si j'ai... Non, c'est l'ordre du Seigneur. Je suis chrétien, voilà, j'ai été saisi par Christ et maintenant il m'envoie. Combien c'est triste quand une église ou des croyants sont centrés sur eux. Tant pis pour les autres. Nous, nous avons été l'objet de la grâce de Dieu, nous avons été l'objet du salut de Dieu au travers d'un témoin ou quelqu'un qui a prié, qui nous a témoigné, quelqu'un qui nous a parlé de Jésus, et maintenant ça s'arrête à moi. C'est triste. Faire arrêter cette chaîne d'amour, ce message, ce qui a été commencé par Jésus, et il dit continuez-le, continuez ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Nous sommes appelés. Ah, c'est pas simple, c'est pas facile, et je dirais que pour être vraiment chrétien, il faut être courageux, hein. Pour être vraiment chrétien, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour être vraiment chrétien, il faut compter sur la grâce de Dieu tous les jours. Sinon, pour être religieux, c'est très très simple. Mais pour être chrétien, eh bien nous avons besoin. Et justement, Jésus a tout prévu pour que nous soyons fortifiés, encouragés, renouvelés. Il a tout prévu. Mais également, si nous n'obéissons pas à l'ordre du Seigneur, nous sommes aussi, nous nous privons de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Nous nous privons de voir l'intervention du Saint-Esprit. Nous nous privons de voir des miracles. Nous nous privons de voir des délivrances. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a dit, oui c'est vrai ce que Jésus a dit, oui c'est exact, oui il a raison, et puis, moi je reste là où je suis. C'est pas... Frères et sœurs, il nous faut revenir à l'essentiel. Ne plus faire ce que le Seigneur ne nous demande pas, mais faire ce qu'il nous demande. Je crois que humblement, on a perdu du temps avec des choses que nous croyons bonnes et avec un cœur sincère. Mais je crois qu'il vaut mieux faire ce que le Seigneur nous demande que de faire des choses dont nous aurions pensé que c'est bien pour le Seigneur. Non! Faire ce que le Seigneur nous demande, et vous allez voir au cours de ces méditations, c'est très simple ce que le Seigneur nous demande. Quand c'est l'homme qui fait, c'est compliqué. Tout est compliqué. Mais quand nous obéissons simplement à Jésus, ça ne nous demande aucun moyen, aucune qualification, rien de tout ça. Moi, la Bible, mes genoux et du courage pour aller. C'est tout. Donc, là, au milieu de nous, personne n'est disqualifié, là. Personne. C'est très, très simple. Et justement, nous, on cherche pour pas faire ce que le Seigneur nous demande, parce qu'on se mouille, on s'expose. Eh oui. C'est plus confortable de faire dans l'Église. Pour la chair, hein, bien sûr. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse, là, à ce niveau du message. L'ordre du Seigneur, ce n'est pas de parler de l'évangélisation. Nous le faisons là. Mais l'ordre du Seigneur, c'est d'obéir. L'ordre du Seigneur, ce n'est pas de faire des réunions d'évangélisation seulement, mais c'est d'évangéliser. Vous comprenez ? Et je crois que, bon, là aussi, on a peut-être perdu la bonne vision exacte. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'évangéliser, de prêcher. C'est le but, l'objectif, et ça doit être une priorité dans notre vie. Petite illustration, si le prédicateur prêche dans une réunion d'évangélisation, il y a un inconverti, deux, trois, allez, quatre, il prêche l'évangile. La réunion, elle est pour eux. Il y a, mettons, 100 chrétiens. C'est pas mieux que toute l'Église, 120 chrétiens environ, voilà, toute l'Église, chacun, puisse témoigner dans la semaine à une personne en ayant prié, témoigné, conduit par le Saint-Esprit, ça fait au moins 120 personnes qui entendent le message de l'Évangile. Plutôt que Au bout d'une année, on aura eu peut-être 50, 100 inconvertis qui sont venus dans les réunions et ça mobilise. Tandis que l'évangélisation... D'ailleurs, si vous regardez dans les Actes des apôtres, il n'y a pas réunion de prière, culte, réunion d'évangélisation, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Ils prêchaient le Christ. C'est tout. Ils se réunissaient, ils priaient, ils prêchaient le Christ, et voilà. C'était ça les réunions. Christ. Alors, peut-être c'est pratique, tout ça, je ne veux pas dire que c'est... Mais ce qu'il nous faut, voilà, c'est prêcher Christ. Prêcher Christ au milieu de nous. Alors, quelle est la pensée du Seigneur concernant l'envoi des disciples quand il dit « Allez, continuez de faire ». Vous voyez, ils auraient pu rester entre eux. Et c'était le plus simple. À Jérusalem, ça commençait à prendre de l'ampleur, il y avait du monde, les gens venaient, ils se convertissaient. Le jour de la Pentecôte, 3000 conversions environ, il y avait des gens qui étaient là, ils avaient une bonne communion fraternelle, ils partageaient le pain, ils écoutaient l'enseignement des apôtres, etc., etc. Il y avait vraiment, vraiment une bénédiction dans cette église. Mais ils avaient oublié qu'eux avaient été l'objet de la grâce de Dieu. Mais les autres alors, la Judée, la Samarie, oh, on a oublié l'ordre du Seigneur, tiens, on est resté à Jérusalem. Alors que Jésus a dit aller dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et eux, ils ont dit on est bien à Jérusalem, c'est très bien, mais voilà, qu'est-ce qu'il y a eu? Une persécution, Dieu a été obligé d'envoyer une persécution pour qu'ils les dispersaient. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, il nous est dit eh bien, que ceux qui avaient été dispersés, ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus. Et de ce fait, l'Évangile a pu progresser, a pu gagner du terrain. Des villes ont été touchées par l'Évangile. C'est ça la vision de l'Église. Je l'ai dit, à l'intérieur, c'est l'adoration, l'enseignement, la prière. Mais après, dehors, c'est l'évangélisation, témoigner. Ah oh, frère, moi je suis timide, moi aussi. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas de capacité, c'est Dieu qui qualifie. Il n'y a aucune excuse, frères et sœurs, je n'ai pas le temps. Le Seigneur a trouvé du temps. Lui, qui a été l'homme le plus occupé que la terre ait porté, il a trouvé du temps pour aller vers une Samaritaine au bord du puits. Il a trouvé le temps, il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse, nous devons aller et nous devons obéir au Seigneur. Et c'est lui qui qualifie, et c'est lui qui ouvre les portes. Ah, mais j'attends qu'une occasion se présente. Frère, elle ne se présentera jamais. Par contre, tu dis, je veux obéir. Je me lève, je me prépare dans ma tête, je prie pour ça, c'est l'objectif, je jeûne pour ça, je veux, Seigneur, j'ai le désir, il y a un feu. Et là, tout à coup, des portes vont s'ouvrir. Tout à coup, on va voir des témoignages qui vont... porter du fruit, il va y avoir des choses. Pourquoi? Parce qu'on a voulu obéir au Seigneur. Voilà, on s'est levé, on est parti, on a dégagé du temps. Quelqu'un peut me dire, j'ai pas le temps. Bien, faut en trouver. Si tu n'as pas le temps pour l'évangélisation personnelle, le témoignage, je parlerai plus de ça, l'évangélisation personnelle, le témoignage, si tu n'as pas de temps pour ça, tu n'en as pour rien. Alors c'est le but du chrétien, c'est le but de chaque croyant, c'est l'ordre du Seigneur. Si on ne prend pas au sérieux ces paroles, alors que va-t-on devenir? Rester entre nous, ma famille c'est tout, l'Église c'est tout, et ça va rester là. Alors que des miracles sont prévus, alors que des interventions de Dieu sont prévues, alors que le Saint-Esprit va être répandu dans des cœurs, alors que des guérisons, on l'a lu, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Alors peut-être vous dites oui, mais comme certains chrétiens évangéliques disent oui, mais c'était pour propulser l'Église. Et après, moi je ne crois pas que c'était pour propulser l'Église, parce que si elle en est là où elle est, elle a vraiment besoin d'être propulsée à nouveau. Hein. Elle a besoin d'une force terrible. Si eux avaient besoin d'être propulsés, et nous, l'Église aujourd'hui, les Églises ou l'Église en général, mais c'est pas une dynamite. Donc c'est d'actualité. Le Saint-Esprit, c'est toujours la même puissance. La même puissance. Mais il est là, le Saint-Esprit. Si j'appuie pas sur l'interrupteur, ça ne s'éclaire pas. Alors qu'il y a une puissance dans les fils, elle y est la puissance. La centrale, elle tourne, la centrale électrique, elle tourne, mais si j'appuie pas sur l'interrupteur, il n'y a pas les effets. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà, nous, ce n'est pas seulement d'enseigner, faire des discours, donner notre point de vue sur Dieu, débattre sur des points théologiques. Mais si c'est ça, on n'a rien compris. C'est pas ça. Quand on nous appelle à débattre, mais non, on n'est pas là pour débattre, sur dire ce que je pense moi de Jésus. Mais je dois dire avec force qui est Jésus. Je dois dire avec force que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est au milieu de nous. Et les effets doivent se voir dans notre vie d'un Jésus vivant. Non, on n'est pas appelé à débattre. Et vous savez, il y a la bonne théologie, bien sûr, mais il y a aussi la théologie libérale. Et vous savez ce qu'ils enlèvent dans la théologie libérale ? Tout le surnaturel. J'ai discuté avec des théologiens libéraux, et ils mettaient en doute même la résurrection corporelle de Jésus. Vous rendez compte, les miracles de l'Ancien Testament, les interventions de Dieu, c'est de la mythologie. C'est des légendes. Noé, c'est une légende. Voyez où ils en arrivent ? Alors qu'ils disent qu'ils parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu et ils luttent contre Dieu si on enlève le surnaturel, le divin, mais on dépouille l'évangile complètement. Il ne reste plus que des arêtes, plus rien. Il y a le surnaturel, il y a le divin, il y a le miraculeux qui accompagne. Jésus l'a dit, les apôtres l'ont vécu, et nous, il nous faut vivre davantage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais il faut qu'il y ait, mais vraiment davantage. Proclamer avec force la mort et la résurrection de Jésus et les conséquences de la croix dans notre vie, c'est ce que cela a produit dans notre vie. La mort et la résurrection de Jésus, qu'est-ce que ça a produit dans ma vie ? Mais si dans ma vie je dis bof, c'est pas, mais c'est sûr que c'est même pas la peine de témoigner. Hein. Mais si dans notre vie ça a produit quelque chose, une métamorphose, métanoïa, mais je vais le dire parce que sinon je serais criminel de pas le dire à ceux qui sont dans l'angoisse, dans la terreur, dans le malheur, dans la misère, dans les pensées de suicide, dans je serais criminel de pas leur dire moi si ça a fait un effet comme ça dans ma vie, si j'ai été libéré de. Mais la puissance de Dieu, et moi je vais passer à côté, bah tant pis pour eux, moi j'ai reçu, c'est bon. Alors je vous l'ai dit, ça nécessite aucune préparation, étude, si ce n'est étudier la Bible. Bien sûr, vous avez des milliers d'études sur Internet, moi je conseille d'étudier la Bible, c'est tout. La Bible, voilà, et le Seigneur nous conduit, le Saint-Esprit nous conduit. Il y a des bonnes choses, mais finalement, il vaut mieux aller directement aux paroles même de Jésus. Mais quand vous lisez les quelques versets que nous avons lus, c'est de la dynamite ça. Il dit, allez, vous allez voir la gloire de Dieu, vous allez voir la puissance de Dieu, allez-y. Et donc c'est Jésus qui assure, c'est lui qui approuve, c'est lui qui confirme ce message par la puissance du Saint-Esprit, le surnaturel, le divin, qui entoure toujours Jésus. J'en parlais à la bouillaliste, mais c'est le thème de ce matin, j'ouvrirai juste ce thème-là. Quand Jésus est là, quand Jésus est élevé, quand Jésus est glorifié, il y a le surnaturel de Dieu qui accompagne. Ça ne peut pas en être autrement. Il dit lui-même, « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Bien sûr, il a été élevé à la croix, il a été élevé dans le ciel, mais il faut qu'il soit élevé par l'Église, il faut qu'il soit élevé dans ma vie, dans mon cœur, il faut qu'il soit élevé. Alors dans les prophéties, dans sa naissance, pendant son ministère, à sa mort, à sa résurrection, à son ascension, dans le ciel et au travers des premiers chrétiens, il y a le miraculeux, il y a le divin, il y a le surnaturel. Voyez, on est devenu trop, un évangile raisonné, un évangile humaniste qui s'occupe des besoins de l'homme. Non, c'est Jésus, le centre de l'évangile, c'est Jésus. Nos besoins, ils seront pourvus, il n'y a pas aucune crainte. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Ce n'est pas la peine de chercher tout le reste. Il nous faut chercher Jésus, c'est lui, à l'élever dans notre vie, à ce que notre cœur soit purifié, sanctifié, que ce soit le tabernacle de Dieu, que ce soit le temple du Saint-Esprit, pour que Jésus soit élevé. Et la suite, c'est lui qui le fait. Ne nous inquiétons pas, il est fidèle. Il pourvoit nos besoins. Il a toujours été fidèle. Même si nous avons été infidèles, mais le Seigneur nous a fait grâce. Et ce matin, il le fait encore. À l'annonce de la naissance de Jésus, qu'est-ce qu'il y a eu? Quand vous voyez dans Luc, chapitre 1er, chapitre 2, prenez tous les évangiles. À sa naissance, qu'est-ce qu'il y a eu? Des anges, le ciel ouvert, la voix de Dieu. Il y a eu des choses mais étonnantes, des chorales dans le ciel. Les anges qui chantaient et les bergers qui étaient tellement émerveillés. Et ils ont dit, tous ceux qui nous avons vu des choses, entendu des choses, qui étaient conformes à ce qu'on nous avait dit. Mais c'est beau ça. Tout le surnaturel, le divin, le miraculeux, a accompagné l'annonce de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, pendant le ministère de Jésus, il n'y a eu que le surnaturel, des miracles, des interventions de Dieu. Il y a eu des choses vraiment étonnantes, des cas désespérés, le Seigneur les a secourus. La multiplication des pains, la résurrection de Lazare. Mais c'est des choses, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des légendes, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et quand nous continuons à la mort de Jésus, j'en ai déjà parlé, mais tous les éléments ont été marqués par la mort de Jésus. Les humains, mais la nature, le ciel s'est obscurci, les rochers se sont fendus, les tombeaux se sont ouverts. C'est pas passé inaperçu, c'est pas quelqu'un de banal, Jésus. La mort de Jésus, c'est la mort du Fils de Dieu. Et toute la nature s'en est ressentie, des tremblements de terre, il y a eu le voile du temple qui s'est déchiré, des ondes de choc qui sont venues jusqu'aux Romains, ce centenier dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». Voyez, il y a eu une puissance extraordinaire et une onde de choc qui s'est produite. J'ai bien peur qu'on ait tout banalisé. Jésus, oui, c'est mon pote. Voyez, on a tellement banalisé. Les choses que, est-ce qu'on s'attend vraiment encore à l'intervention de Dieu? Il faut qu'on s'exhorte les uns les autres, au lieu de parler des uns des autres, parlons de Jésus. Jésus qui est celui qui veut se manifester au milieu de son peuple et dans la rue, dans ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Que nous puissions prier pour les malades, que nous puissions témoigner avec force, que nous puissions dire, peu importe si on dit, ouais mais tu es fou, oui, peu importe, mais Jésus a agi dans ma vie. S'il agit, il faut leur dire, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ce qu'il m'a apporté. Et ça touche les gens, l'œuvre de Jésus en nous. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent espérer aussi la même œuvre dans leur vie. Et il faut le dire. Donc à la mort de Jésus, à la résurrection de Jésus, des anges étaient là. Il y avait toujours des anges. Hein. Regardez, de partout, il y avait des anges. Il y avait la voix du Père qui se fait entendre lors de la transfiguration. Il y a eu la gloire qui est apparue, ça a marqué les disciples. Il y a eu autour de Jésus, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Autour de Jésus, il y a le surnaturel. Autour de Jésus, il y a le miraculeux, le divin. C'est pas moins que ça. On ne peut pas dire, voilà, moi je suis croyant, je crois en Jésus, rien ne se passe, mais je crois en Jésus. Non, il ne faut pas accepter dans notre vie, dans notre propre vie, de dire, Seigneur, je veux me placer vraiment devant toi. Je veux prendre tes paroles au sérieux. Je veux voir ce que tu dis et je veux obéir à ce que tu dis parce que je dis que tu es mon sauveur, mon Seigneur, mais je n'obéis pas à l'ordre que tu m'as donné. Je ne parle pas de l'Église en général parce qu'on peut se cacher derrière l'Église. On peut dire, voilà, l'Église fait ceci, fait cela. Non. Moi, c'est moi qui suis appelé, moi qui suis un témoin, moi qui suis le porte-parole. Jésus s'adresse à chacun, ils s'en allèrent chacun dans les rues, sur les places, et ils témoignaient de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux, et le Seigneur les accompagnait et confirmait sa parole par les miracles. C'est dehors les miracles. Hein. Les gens ont besoin. Bien sûr, il y a aussi les malades, mais Dieu fait des miracles dans ceux qui ont besoin. Sur la montagne, à sa résurrection, à son ascension, qu'est-ce qu'on trouve encore? Des anges. Ils sont là. Bien sûr, on ne cherche pas les anges, mais c'est une manifestation surnaturelle de Dieu. Voilà, c'est que ce soit des anges ou le ciel qui est ouvert, Dieu qui parle, la voix qui se fait entendre. Voilà. Lors du témoignage de la conversion de Saul de Tarse, qu'est-ce qui s'est passé? La voix, la lumière, il y a eu quelque chose qui a impressionné, qui a touché, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, pour le toucher, mais il y a eu la puissance de Dieu qui a touché cet homme et il est devenu un instrument béni entre les mains de Dieu. Ces choses, elles ne sont pas pour le passé, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas des choses en disant c'était bien pour l'époque, mais c'est pour aujourd'hui. Et il faut que nous puissions nous le dire, c'est pour aujourd'hui. On peut parler beaucoup de l'évangélisation, mais il faut s'exhorter à obéir à ce que le Seigneur nous a ordonné. Et cela a continué dans les premiers chrétiens. Qu'est-ce qu'on voit chez les premiers chrétiens? Oh, les prisons s'ouvrent. C'est beau. Tremblement de terre, les prisons s'ouvrent. Quand ils prient, le lieu où ils étaient assemblés tremble. Et ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Quelle réunion de prière! Voilà ce que le Seigneur veut pour nous. Priez. Ça peut bouger ou pas, mais qu'on soit tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec assurance. Ils ont dit, vois leurs menaces, Seigneur. C'était des menaces sérieuses hein, qu'ils avaient. C'est des menaces. Ils disent, vois leurs menaces. Et non pas, on va défiler pour avoir des droits dans la rue, les chrétiens vont dire, on veut si. Non, ils ont dit, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Pour contrer tout ça, mais on ne va pas aller sur le terrain des revendications, sur le terrain de ceci, de cela. On va sur le terrain de la parole de Dieu. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance et qu'il se fasse des prodiges et des miracles dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Ça, Jésus était remonté, c'était déjà dans le temps avancé, dans Acte 4, et déjà ils priaient parce qu'ils y croyaient. Ils disaient, Seigneur, confirme ta parole par des miracles, des délivrances. Confirme ta parole, Seigneur. Il y a eu des manifestations divines dans Acte 2, Acte 4, Acte 12, Acte 16. Il y a eu le jugement de Dieu qui est venu dans Acte 13. Il y avait une manifestation. Quand Jésus est prêché, annoncé avec vérité, il y a quelque chose qui va se passer. C'est obligé. Autour de Jésus, il y a toujours le surnaturel, la gloire de Dieu. Il y a toujours la puissance du Saint-Esprit autour de Jésus parce que c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. C'est Jésus qui nous l'a dit. Et il est fidèle à sa parole. Et puis, dans le livre de l'Apocalypse, seulement dans le chapitre premier, quand on voit plus loin, bien sûr, mais dans le chapitre premier seulement, il y a une vision de Jésus extraordinaire, de la divinité, de la gloire, de la magnificence de Jésus dans le chapitre premier, tel qu'il est véritablement. L'apôtre Jean disparaît. Vous voyez, quand Jésus apparaît dans sa gloire, quand Jésus est juste celui qui nous a sauvés, notre ami, l'homme, il garde sa place. Mais quand Jésus apparaît dans sa gloire, l'homme disparaît. Et l'apôtre Jean, il nous a dit qu'il est tombé comme mort. Tombé comme mort. Et une main s'est posée sur lui et l'a relevé. Oui, Jésus doit être élevé au milieu de nous. Jésus doit être glorifié dans notre vie. Le diable nous a fait perdre beaucoup de temps, et il fait perdre beaucoup de temps par des choses et des distractions, mais revenons au but, à l'essentiel, adoration, enseignement, prière dans l'église, et dehors, évangélisation. On ne se met pas là en disant, on attend qu'ils arrivent, mais on y va, et on témoigne. On ne dit pas, voilà, il va y avoir une mission, viens à la mission, je t'invite. Non, je témoigne. Je témoigne de ce que Jésus a fait dans ma vie. Bien sûr, si, il faut qu'il ait fait quelque chose hein, de probant dans notre vie. Mais s'il a fait quelque chose de probant, c'est à moi de parler et de dire, voilà ce que Jésus a fait. Oui, mais tu es fou. Je sais, je peux passer pour un fou, mais voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Voilà comment j'étais et voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Ah, Ça, c'est, je vous assure, même si quelqu'un dit, ouais, mais moi, je repassez dans votre cœur ce que le Seigneur a fait. Et il a fait de grandes choses. Des fois, on banalise, on dit, ouais, mais moi, je n'ai pas été un leader, un gang dans la drogue. Dans... Ce n'est pas ça. Quelqu'un, ça va être ça. Mais l'autre même, voilà, est bien élevé, bien éduqué. Mais c'est le miracle de la conversion de Jésus en nous. Et c'est, des fois, c'est peut-être plus difficile dans une famille chrétienne. Je ne sais pas, mais voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et vous savez, ça interpelle. Les gens ont besoin d'une espérance. Ils sont désespérés plus que jamais, aujourd'hui, avec ce qui se passe. Et comme je l'ai déjà dit, vous allez dire, c'est un oiseau de mauvaise augure. Je vous avais dit que les choses arriveraient. Elles commencent. C'est que le début. C'est que le début. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Je ne parle pas de la crise sanitaire. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Frères et sœurs, il faut nous se préparer et il faut sauver. Ceux qu'on traîne à la mort, arrache-les. Arrache-les, secours-les. Ceux qu'on traîne à la mort. Le diable voudrait amuser l'Église pour que ceux qui sont dehors restent dans la mort. Quand l'homme prend toute la place, Jésus disparaît. Et avec lui, le surnaturel, le miraculeux, le divin. Et aujourd'hui, eh bien, plus que jamais, l'homme prend de toute la place. Comme je l'ai dit, un évangile rationalisé, on discute l'évangile. Un évangile humaniste, voilà, c'est l'homme, on parle de l'homme. Et on cherche de moins en moins la gloire de Jésus, l'élévation de Jésus, quitte à souffrir nous-mêmes pour que Jésus soit élevé, parce qu'il a souffert lui-même pour que l'homme soit sauvé. On ne veut pas chercher la gloire de l'homme, satisfaire ses besoins, ses loisirs, ses envies. Et tout le divin disparaît, les manifestations disparaissent, les miracles disparaissent, l'action puissante du Saint-Esprit disparaît, les convictions de péché disparaissent. On explique tout, aujourd'hui on commente tout, on est capable de faire dire à Dieu des choses qu'il n'a jamais dites et penser à sa place. Non, arrêtons tout ça, occupons-nous seulement de ce qu'il a dit, c'est écrit ce qu'il a dit. Et laissons les commentateurs commenter, laissons les autres philosopher, mais nous, nous voulons vraiment obéir à ce que Jésus a dit. Et vous savez, l'évangile est simple. Quand on veut désobéir, c'est compliqué. Mais quand on veut obéir, ça c'est clair, c'est simple. C'est l'évangile, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est clair, on y voit. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Nos contemporains ont besoin de voir un Jésus vivant. Un Jésus ressuscité, un Jésus agissant, un Jésus puissant, quelqu'un qui transforme les vies, quelqu'un qui parle, qui éclaire, qui donne des directions, qui satisfait pleinement l'être intérieur, qui remplit de paix à tel point que ceux qui sont autour de nous le remarquent. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse au milieu de l'Église et que nous diminuons. Jésus est né pour régner. Et l'homme pour servir, et pas l'inverse. Dans le ciel, Jésus règne, et il y a de l'ordre, il y a de l'harmonie, il y a, tout est en phase, tout est majestueux, tout est glorieux dans le ciel parce que Jésus règne, il est assis sur le trône. La prière du Notre Père, que ton règne vienne, Seigneur. L'homme qui règne, l'homme divin, c'est une pensée diabolique du Jardin d'Éden. Et elle a été propagée depuis le Jardin d'Éden. L'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est pas un Dieu. L'homme est un être mortel. L'homme est un être qui a besoin de la grâce de Dieu. L'homme est un être qui doit servir, s'incliner devant le Seigneur. On relit ces versets, juste la fin, dans Marc 16, 19. « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'est assis à la droite de Dieu. et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Prenons les ordres de Jésus au sérieux. Je vous le dis, je me le dis. Sortons de la barque, de la zone de confort, de la zone où nous sommes en sécurité, où on ne sera jamais persécuté, ni moqué, ni contrarié dans la barque. Voilà, on est dans la zone de confort, on jouit de l'Évangile, voilà, et puis on risque rien, on ne prend pas de risque. Pierre a pris un risque en sortant de la barque, mais il a vu le miraculeux de Dieu. Les autres, ils auront pu dire, ouais, mais Pierre, il s'est enfoncé, ouais, mais il a marché sur l'eau. Il a vu la puissance du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il a obéi à l'ordre. Pierre, viens ! Il est sorti de la barque et il a vu la gloire de Dieu. Frères et sœurs, si nous restons dans la zone de confort, on ne sera jamais persécuté. Mais on ne verra jamais ce que le Seigneur avait prévu pour nous, pour chacun d'entre nous. La puissance de Dieu, le divin, le miraculeux, des choses étonnantes, des choses qui nous dépassent, des choses qui nous surprennent, des choses qui nous émeuvent. On ne le verra pas parce qu'on reste dans la barque, on est dans la zone de confort. Oui, le Seigneur est là, il prend soin de nous. N'attendons pas d'avoir des occasions, je l'ai dit. Nous devons obéir. Si on dit, mais moi, je suis disposé, j'attends qu'une occasion se présente, ça c'est pour désobéir gentiment. Mais si je fais une priorité de l'ordre du Seigneur qu'il a donné à chacun, je vais prier pour ça. Ça va occuper mes pensées, mon cœur, mon temps. Je vais jeûner, Et puis tout à coup, on va dire, Seigneur, voilà, moi je ne sais pas où aller, je ne sais pas qui tu vas placer, mais voilà, je t'obéis, je me lève, je prends du temps, je ne sais pas, voilà, tu le fais, Seigneur. Et on va être étonné. Et déjà, il y a eu des témoignages de choses étonnantes qui se sont passées, des témoignages que jamais on aurait, des frères et sœurs auraient prévus, mais qui se sont passés. Alors n'oublions jamais, et je vais terminer, n'oublions jamais que ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Christ. N'oublions jamais que ce n'est pas notre évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. N'oublions jamais que ce n'est pas par notre puissance, par nos dons, par nos talents, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. N'oublions jamais que ce n'est pas nous qui avons payé, c'est Jésus qui a payé à la croix pour que des hommes et des femmes soient sauvés. N'oublions jamais que ce n'est pas nous qui convaincons, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors n'essayons pas de court-circuiter le Saint-Esprit avec de l'amitié, de ceci, de cela, voilà, et gagner les gens comme ça. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Bien sûr, on est aimable, on accueille et tout ça, oui, mais on ne compte pas sur ça. On compte sur la puissance du Saint-Esprit pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous sommes des porte-paroles, des témoins qui ont vu Jésus agir dans leur vie, autour d'eux, qui l'ont entendu parler. N'oublions pas également que nous ne devons pas attendre que le Saint-Esprit soit répandu. Le Saint-Esprit a déjà été répandu à la Pentecôte. Vous savez qu'il n'y aura jamais une deuxième Pentecôte ? Le Saint-Esprit a déjà été répandu à la Pentecôte. Maintenant, il faut qu'il vienne dans l'Église et dans nos cœurs, ça c'est clair. Mais il a déjà été répandu à la Pentecôte. Nous ne devons pas attendre que la volonté de Dieu dans ce domaine, parce que la volonté de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Le prix a déjà été payé. La porte de la grâce est ouverte. Elle est ouverte. Il suffit juste d'obéir. Tout est prêt. Tout est prévu. Tout est pourvu. On n'a aucune excuse valable. Aucune. Même, et notre frère Rachid qui est là, quand il était couché, à combien de personnes il a témoigné ? Combien de Bibles il m'a fait amener à la Bourbonne ? Et on ne les compte plus, Rachid. Donc, même si le corps est immobilisé, nous sommes encore des témoins puissants. de la gloire et de la puissance du Seigneur. On va prier le Seigneur. Seigneur, ensemble, nous voulons te prier, te bénir. Seigneur, c'est vrai, nous avons fait beaucoup de choses. Seigneur, et parfois, nous n'avons pas fait ce que toi, tu nous demandes réellement. Seigneur, dans l'humilité, nous voulons te demander pardon, mais nous voulons obéir à l'ordre de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous considères. Oui, Seigneur, tu nous envoies, tu nous donnes cette mission qui est de la plus haute importance sur cette terre. C'est plus que tout sur cette terre. La mission que tu nous confies, elle est de la plus haute importance. Et tu la confies à tes enfants. Seigneur, nous voulons être tes témoins. Seigneur, aide-nous à prendre au sérieux tes paroles. Ta parole, tu dis que tes disciples, ce sont ceux qui gardent ta parole. Seigneur, permets que dans les semaines qui viennent, eh bien, nous nous mettions en l'œuvre. Nous nous mettions à ton service dans ce domaine qui ne réclame rien, si ce n'est nous et toi et ta parole, Seigneur. Merci de bénir mes frères et sœurs. Même ceux qui sont dans les situations difficiles, tu veux te servir. Et nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans le cœur des perdus. Oui, nous voulons voir ta gloire. Tu nous l'as promis, Seigneur, nous voulons le voir, nous voulons tout mettre en œuvre. Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, dans le témoignage, nous voulons dégager du temps. Nous ne voulons pas vivre pour nous, mais vivre pour toi. Seigneur, bénis l'Église. Seigneur, et que des âmes nouvelles puissent être placées sur notre route et qui viendront ensuite adorer le Seigneur. Foi convertie par notre témoignage et par ta puissance, Seigneur, viendront adorer et louer Dieu au milieu de ton peuple. Que ton nom soit loué et béni. Amen.